France Musique.
Ah bien, si vous voulez de la légende, en voilà les suites de Jean-Sébastien Bach pour violoncelle par Pablo Casals. Une époque, toute une légende aussi, le prélude de la première suite pour violoncelle seule de Jean-Sébastien Bach, extrait de l'intégrale des suites, les six, qu'enregistra Pablo Casals entre 1936 et 1939 pour EMI. Alors, faut rappeler que Casals fit tout simplement renaître ses suites de Bach. L'éclipse sur la musique du compositeur avait été longue, en effet. Déjà de son vivant, Bach n'était joué que très très localement, il était reconnu comme organiste, très peu comme compositeur. On se remet à l'éditer, à l'étudier à la fin du XVIIIe siècle, mais on le joue peu en concert, à l'exception des passions qui s'imposent graduellement au fur et à mesure du 19e, mais il faut vraiment attendre le début du 20e siècle pour que les musiciens eux-mêmes suggèrent l'idée que cette musique est grande, oui, mais que cette grandeur ne doit pas faire obstacle à son partage, qu'on peut donc la faire entendre au grand public, au concert en particulier, et pourquoi pas au disque. Et côté suite, et bien c'est Pablo Casals qui le fit, ce travail-là.
Thank you.
l'allemande de la suite en ré mineur, la deuxième de Jean-Sébastien Bach par Pablo Casals, extrait de ses disques paru à l'époque en 78 tours à la fin des années 30 et repris de très nombreuses fois depuis, entre autres dans la collection Référence bien célèbre. Alors remontant de 40 ans dans le temps, 1890, Casals a 13 ans seulement, son père vient de lui acheter son premier violoncelle, il se balade un jour dans les rues de Barcelone, cherche des partitions, il tombe dans un magasin miteux sur de vieilles occasions, parmi lesquelles des sonates de Beethoven et les suites de Jean-Sébastien Bach, qu'à l'époque personne ne joue sinon comme de simples études. On s'en sert comme au piano de Czerny, des exercices, ça n'est rien de plus que ça. Le jeune Pablo Casals se rend rapidement compte qu'il y a un vrai potentiel expressif. Il tombe tout simplement amoureux de ses pièces et dès le début de sa carrière, il les jouera assez régulièrement, au moins par morceau, en concert. Ce qui est certain, c'est que les suites ne le quitteront plus jamais. Il en fera une sorte de symbole de l'émancipation de son instrument, puisque rappelons-le, à cette époque-là, le violoncelle aussi était considéré comme un instrument très peu soliste. Casals dans la sarabande de la troisième suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, toujours extrait de cette intégrale réalisée dans la deuxième moitié des années 30 par le violoncelliste. Alors dans ces années-là, il se passe quand même, il faut le signaler, deux phénomènes qui sont congruents. D'abord l'industrie du disque qui évolue beaucoup, qui se crée tout simplement autour du support du 78 tours, qui commence à devenir tout à fait florissant. Et puis en même temps la prise de conscience du patrimoine musical. On n'a pas toujours grandi avec l'idée qu'on devait jouer des compositeurs qui ont deux ou trois siècles siècles d'âge, hein, pas du tout à cette époque-là. On jouait surtout les vivants ou alors des compositeurs morts il y a relativement peu de temps. Et au croisement de ces deux idées, eh bien, il y en a encore une autre, c'est que le disque va pouvoir fixer en quelque sorte des versions définitives pour créer une sorte de musée musical vivant de la grande tradition patrimoniale. Bach est au cœur de ce projet. Au milieu des années 30, eh bien, Menuhin, qui a même pas 20 ans, et Audie Menuhin enregistre les sonates et partitas. Edwin Fischer, le clavier bien tempéré. Et donc Pablo Casals, les suites. Et le plus extraordinaire, ce 80 ans après, on les écoute toujours, ces suites, et qu'on trouve toujours ça beau. Terrien et l'archer accrocheur, et le lyrisme aussi, c'était un extrait de la quatrième suite, Les Bourrées, de Jean-Sébastien Bach, suite pour violoncelle seul, joué ici par Pablo Casals, enregistré cette intégrale entre 1936 et 1939, entre Londres et Paris, régulièrement réédité. Flora Sternadel, qui fait les pages de site de l'émission de Relax, vous a mis sur la page du disque de légende, justement, la réédition en référence avec cette photo dont certains se souviennent peut-être de Pablo Casals, entouré de fumée, on ne sait pas si c'est de la fumée de cigarette ou la fumée de son violoncelle qui brûle. Non, c'est les cigarettes, bien évidemment. Souvenir pour beaucoup d'entre nous, c'était notre disque de légende pour aujourd'hui.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Tiens, une auditrice, Madame Fourreau, qui me raconte qu'elle était au concert en fin de semaine dernière. Ah bah oui, un concert que je vous avais conseillé d'ailleurs, Marie Siensons, qui dirigeait la 10e symphonie de Shostakovich. Elle me dit que c'était très bien. Comme quoi, parfois, je vous donne de très bons conseils. Mais elle me signale surtout qu'en bis, Marie Siensons a donné l'interlude de l'acte 3 de Lady Macbeth, du même Shostakovich, et que c'était très bien. Ah bah voilà. L'interlude du premier acte de Lady Macbeth de Dmitri Shostakovich, c'était Myung Woon Chung à la baguette, à l'époque où il dirigeait l'orchestre de l'Opéra de la Bastille. Un grand merci à Madame Fourreau qui nous a suggéré d'écouter l'un des interludes de Lady Macbeth. Je suis pas tout à fait certain que ce soit celui qu'elle a écouté l'autre soir avec Marie Sjansons. Enfin bon, c'était l'occasion. C'est très beau tous les interludes de cette pièce. Je signale au passage, Madame Fourreau me signale que ça a été un véritable délire, ce concert de Marie Sjansons. Paraît-il que le public était enthousiaste comme on ne saurait l'être. Mais après tout, on le comprend, c'est un chef absolument formidable. Un autre musicien, enfin deux, dans ce qui suit, Edward Grieg pour sa sonate opus 45 pour violon et piano. Les musiciens en question, c'est Augustin Dumay et Maria Joao Pires qui nous font un Grieg ici selon les moments aériens, passionnés, lyriques, enfin tout ce qu'il faut quoi.
Thank you.
manière de parler et de chanter avec des instruments de musique. C'était le final de la sonate en ut mineur, la troisième pour violon et piano d'Edward Grieg, joué par Maria Joao Pires au piano et Augustin Dumay au violon. Alors là, on va enchanter littéralement pour ce qui suit avec ce disque dont vous vous souviendrez peut-être, je vais vous dire comme le temps passe, ça fait 20 ans qu'est sorti déjà ce Viva Napoli de l'ensemble Dulce Mémoire et de Denis Raisin d'Arbre. C'est un album très très intéressant parce qu'en fait, il nous proposait des musiques d'origine populaire, composées donc du côté de Naples ou à Naples même au milieu du XVIe siècle et jusqu'à la fin de ce siècle-là. Et là où c'était passionnant, c'est que ça nous montrait que l'une des origines de la grande musique savante italienne, celle du madrigal et puis, quelques temps plus tard, celle de l'opéra, eh bien ce sera de la musique populaire venue de la rue et sous la plume en tout cas de compositeurs qui s'y intéressaient, à laquelle on donnait finalement une forme un tant soit peu différente. On va entendre ici celle de musique d'Adrian Villart avec ce « O bene mio fa », traduction « O mon amour, fais-moi plaisir ». Ne croyez pas, le texte n'est pas licencieux du tout. Hein. « Fais-moi plaisir », c'est spirituel, bien sûr. montait sans doute de la rue vers la cour. C'était une canzone d'Adrian Villart, jouée et chantée par les membres de l'ensemble Douce Mémoire, sous la direction de Denis Rézindadre.
Relax, Lionel Esparza, France Musique.
Allez, je vous emmène à l'Opéra de Lyon pour être précis.
Thank you.
Cette voix formidable, c'est celle d'Anita Cerqueti, la soprano qui chantait un extrait d'Hernani de Giuseppe Verdi sous la direction de Gianandrea Gavazzeni. À l'occasion, je vous consacre un petit portrait à Anita Cerqueti, peut-être la semaine prochaine, tiens, si ça nous toque comme ça, c'est une chanteuse absolument incroyable. Enfin, c'est pas pour elle qu'on écoutait Hernani, mais parce qu'il se trouve qu'on va pouvoir voir à Lyon, demain soir, Hernani de Verdi, donc, en version de concert. C'est un opéra très rare, qui a pourtant été très important pour Verdi, c'est son deuxième grand succès après Nabucco, alors qu'il a même pas 30 ans, et c'est une pièce qui sera reprise très souvent par la suite, même si aujourd'hui on ne joue plus Hernani, ce qui certainement est une erreur. On entend avec l'air qu'on avait ici quelque chose quand même de très très beau. Donc Hernani, ce sera la suggestion, je crois, de Daniele Rustioni, qui est le directeur musical, enfin plutôt chef principal de l'Opéra de Lyon, qui aime beaucoup les opéras du jeune Verdi, et qui a mis ceci au programme. Donc, demain mercredi, à l'Auditorium, avec l'Orchestre National de Lyon, c'est Hernani, et puis ça partira en tournée au Théâtre des Champs-Élysées à Paris vendredi, et puis à l'Opéra de Vichy le 10 novembre, c'est-à-dire dimanche. Ça ne se manque donc pas. Un autre témoignage d'Hernani, ici chanté par Placido Domingo.
Merce diletti amici, a tanto amor merce. Uditor tutti del mio cor gli affanni, e se voi negherete il vostro aiuto, forse per sempre Renani fia perduto. Thank you.
Placido Domingo en Hernani de Giuseppe Verdi. C'était l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, dirigé par Carlo Maria Giulini. On pourra donc entendre demain, mercredi, à l'Auditorium de Lyon, par l'Orchestre de l'Opéra de Lyon, Hernani, version concert, dirigé par Daniele Rustioni. Ce sera d'ailleurs enregistré par France Musique. On adore les versions concert, ça fait toujours, enfin pas toujours, mais souvent, de la très belle radio derrière. Allez, un dernier concert pour un artiste russe vraiment très formidable lui aussi, mais fort peu connu, enfin pas assez. Andrei Korobeynikov, lui, sera ce soir au Théâtre des Champs-Élysées. On va le retrouver aux côtés de son compère Alexander Kniaziev dans la deuxième sonate de Johannes Brahms. Thank you. Allegro passionato de la deuxième sonate de Johannes Brahms, c'était André Korobeynikov au piano, Alexander Kniazev au violoncelle. Un grand merci à Flora Sternadel, Antoine Courtin et Alex Billard. Je vous retrouve bien sûr non seulement demain à 15h, mais sur notre site internet en passant par francemusique.fr pour réécouter et podcaster l'émission tant que vous voulez. Bonjour Élie Moreau.
Bonjour Lionel.
Certains auditeurs m'ont engueulé en me disant mais vous ne faites pas l'anniversaire Eurovite, mais parce que d'autres s'en chargent, et très bien.
Oui, exactement. Donc Satan au piano dans le Van Beethoven, je vous dis à demain.
Satan
Lionel. Oui, Satan, vous savez, c'est Clara Askill qui l'avait appelé comme ça.
C'est pas vrai,
si,
je ne savais pas.
Oui, oui.
D'accord, très bien.
À demain.
À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.